Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour à tous et bienvenue à vous qui nous retrouvez sur BPM. Il est 8h passé de 3 minutes, l'heure de notre émission quotidienne avec un élu du Mantois. Chaque vendredi, nous sommes en direct pendant 20 minutes depuis une mairie et en cette fin de semaine, nous sommes à Mantes-la-Ville, une commune de 20 000 habitants où collines arborées et agricoles, pavillons individuels et immeubles se côtoient pour proposer un cadre de vie agréable à ses habitants. Pour nous recevoir aujourd'hui, Samy Damergy, maire de Mantes-la-Ville depuis 2020 et également conseiller communautaire GPSCO et conseiller régional d'Île-de-France. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour Julie, bonjour Robin, et merci. Bonjour Alfredo.
Merci de nous recevoir dans votre bureau. Ce matin, nous allons aborder ensemble plusieurs thèmes importants pour la commune. Tout d'abord, la déconstruction partielle de la halle Sulzer qui débutera dans quelques mois, la création de deux écoles intercommunales. Nous aborderons également le budget de la ville et plus précisément concernant l'environnement. Mais revenons donc sur la halle Sulzer, cet immense bâtiment qui était dédié à l'assemblage de pompes et moteurs de bateaux, dont la déconstruction partielle va démarrer en septembre. Où en est-on ?
Oui, effectivement. Donc, c'est un grand bâtiment, la halle Sulzer, mais qui est inséré donc dans un quartier qu'on appelle Mantes Université, quartier qui a été lancé sur une ZAC qui appartient à l'EPAMSA, donc un établissement public qui en est donc bien sûr le propriétaire. Et cette halle est un grand bâtiment, effectivement, comme avec un passé industriel, un bâtiment de 300 mètres de long sur 30 mètres de haut et plus de 40 mètres de large. Aujourd'hui, ce qui il va être déconstruit, mais déconstruit en partie, juste le parpaing qui est inséré entre la charpente métallique. La charpente métallique a été réalisée en 1870, au moment de la réalisation aussi de la tour Eiffel, par le même fabricant, donc Eiffel. Et l'intention du propriétaire, du maître d'ouvrage, c'est de garder cette structure métallique. Alors bien sûr, donc plusieurs phases, il a fallu fermer la halle, ça a été fermé en 2013. Les travaux qui vont arriver aujourd'hui sont des travaux d'un bâtiment transitoire où une fois que le parpaing sera retiré et que la charpente métallique aura été retravaillée, refixée, il y aura donc un ensemble de plantes et d'arbres qui seront plantés et ensuite déplantés pour venir garnir les rues qui seront adjacentes et qui seront même traversantes de cette halle.
Vous allez en faire plusieurs espaces, c'est ça ?
Il y aura plusieurs espaces. En gros, cette halle qui fait 300 mètres de long sera divisée en trois parties à peu près égales de 100 mètres, dont la première, qui sera du côté du boulevard Roger Salengro, sera donc le transfert de l'IUT de Mantes-la-Jolie, donc avec près de 1200 étudiants. Ensuite, la partie centrale sera une partie dédiée au commerce et à quelques bureaux communaux, quelques espaces communaux. Et ensuite, la troisième partie, qui sera aussi partagée par la commune de Buchelay, sera un espace culturel.
Donc l'idée est vraiment de redonner vie à cet espace et de lui redonner son importance.
De garder son histoire industrielle au travers de la charpente métallique. Et donc il y aura trois histoires différentes dessus, donc une histoire qui sera donc Mantes Université, le transfert de l'IUT, avec, vous savez qu'il y a l'ISTI, l'Institut Technologique juste à côté, et donc de garder donc cet esprit qui a été voulu au départ, en 2007, de créer cette ZAC en Mantes Université, une partie qui sera une partie commerce avec le respect de la halle, et on va ramener un certain nombre de choses qui sont en train de se développer dans d'autres régions de France. Et puis, enfin, cet espace culturel qui sera un espace modulable avec des événements, bien sûr, culturels, mais aussi sportifs.
Plusieurs projets avaient déjà été lancés sur cette déconstruction de la halle, ou en tout cas sur son utilisation. Ça a été difficile de choisir comment bien l'utiliser ?
Alors, on l'a fait en concertation. Nous sommes arrivés donc aux commandes de la ville en 2020. C'est un projet qui était parti en 2007 avec... Il y a eu plusieurs projets et lorsque nous sommes inscrits, nous, dans la réflexion auprès de l'EPAMSA, c'est le projet aujourd'hui qui sont les trois projets qui tiennent la corde et qui vont être réalisés.
En termes de délai, à quoi on peut s'attendre ?
Alors, il faut donc la déconstruction donc va être lancée cette année. Il faut compter un an et demi au niveau de la déconstruction, du retravail de la charpente métallique. Il faut ressouder des rivets, il faut refixer des calaminés, enlever la peinture, fixer la peinture anti-rouille. et ensuite, donc, comme je le disais tout à l'heure, donc, planter des arbres. Et donc, ça, c'est une opération qui va durer environ un an et demi. Par ailleurs, donc, il y a le transfert de l'UIT qui est au sujet d'un appel d'offres. Et manifestement, ça devrait se réaliser en 2025. Et donc, la première partie de cette halle donc se retrouvera en travaux définitifs, donc pour prendre ça en aspect définitif à partir de 2025.
Donc, on peut espérer dans 2 ans. Dans 2 ans, vous pensez qu'il y a déjà les...
Alors, la première partie, donc la déconstruction, elle va commencer c'est maintenant, et ensuite la première partie de réhabilitation de cette halle commencera donc en 2025.
Un autre grand projet, vous avez signé mardi en compagnie du maire de Buchelet, Stéphane Tremblay, une convention qui prévoit la construction de 2 groupes scolaires. Pouvez-vous nous présenter ce projet qui a été un travail de longue haleine ?
Alors, vous avez raison Julie, c'est vraiment de très longue haleine. Dès que nous sommes arrivés, alors peut-être pour rappel, donc effectivement on a besoin d'écoles sur Mantes-la-Ville. Lorsqu'on s'y promène, on s'aperçoit que beaucoup d'écoles, donc on a 13 groupes scolaires, et dans beaucoup d'écoles, donc il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des bungalows, parce que donc la population a augmenté et qu'effectivement donc il y a beaucoup plus d'écoliers.
Quand vous dites bungalow, ça fait un peu rêver vacances. Ce que vous appelez bungalow, ce sont les préfabriqués, c'est ça ?
Alors je ne sais pas. Si aller à l'école, ce sont des vacances pour tous les étudiants ou tous les élèves.
Surtout au mois de juin.
Mais effectivement, donc on va dire donc des préfabriqués. Ce n'est pas du dur, c'est donc du provisoire, mais parfois du provisoire qui dure puisque les premiers donc bungalows entre guillemets qui ont été installés en 2009. Et effectivement, donc aujourd'hui, le sujet c'est de faire face à cette augmentation du nombre d'élèves. La mandature précédente avait eu un projet qui était de construire une école pas loin d'ici, mais dans le parc de la Vaucouleurs, ce qui était complètement inepte au niveau naturel. Et puis, sans parler de la construction financière de ce projet. Et donc, si on était d'accord sur le fait d'augmenter le nombre d'écoles et d'accueil des étudiants, nous n'étions absolument pas d'accord sur le lieu et la construction financière de cette école. Aujourd'hui, donc, effectivement, c'est un travail de longue haleine pour arriver à construire sans le faire peser sur les deniers de la population et des administrés. Il faut trouver des partenaires. Et donc, nous avons cherché des partenaires. Et on s'inscrit aujourd'hui sur cette école au travers d'un dispositif qui est mis à disposition par le conseil départemental, un des seuls départements de France qui permet de le faire. En gros, pour faire simple, c'est aider les communes qui construisent à les accompagner dans des équipements communaux. Et donc, ça va être le cas. On s'est rapproché de Buchelet, qui est notre voisin et qui partage la ZAC avec nous. La ZAC, c'est 35 hectares, mais il y a 5 hectares qui sont sur la commune de Buchelet. On a même un immeuble qui est partagé en deux. On entrait dans le hall, et puis il y a une partie à droite qui est sur Mantes-la-Ville, une partie à gauche qui est sur Buchelet. Et donc, effectivement, on a aussi des dérogations scolaires entre des Buchelois et des Mantes-Villois. Il était intéressant et il y avait complètement un intérêt partagé avec Buchelet d'avoir une école intercommunale et lorsqu'on fait nos calculs et sur le développement de la ZAC Mantes Université et le nombre de logements qui va y siéger, il était intéressant avec Buchelet d'avoir une deuxième école. Et donc, nous avons signé cette convention pour la construction de 2 groupes scolaires. Un de 18 classes sur Mantes-la-Ville d'abord et ensuite un de 15 sur Buchelet.
Comment ce sera réparti ?
Alors, ce qu'on a regardé, c'est de faire une partition de 2/3, 1/3. La première construction de 18 écoles, donc en gros, on réserverait l'équivalent de 6 classes, donc 1/3 de 18, à Buchelet, donc 2/3 pour Mantes-la-Ville, bien sûr. Et de manière symétrique, lors de la construction du second groupe scolaire sur Buchelet, de faire 1/3 pour Mantes-la-Ville et 2/3 pour Buchelet.
Donc là, ça y est, tout est signé, vous avez trouvé les endroits, vous avez trouvé les accords. Quand est-ce que ça va démarrer ?
Alors, je profite d'être au micro pour dire Stéphane, à qui Stéphane Tremblay qui est reparti avec le parapheur parce qu'il n'avait pas le tampon de Buchelet, de nous rendre très rapidement donc le parapheur.
Pour
avec
que ce soit vraiment bien acté.
Exactement. Donc À partir du moment donc on a la convention, on va pouvoir lancer donc tout ce qui est commission d'appel d'offres et donc pouvoir lancer les travaux avec l'objectif de poser la première pierre, en tout cas sur le premier groupe scolaire avant la fin du mandat.
En parlant de préfabriqué, hein, toujours dans le scolaire, il y a également le projet pour l'école maternelle des Alliés de Chavannes.
Alors, je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que les Alliés de Chavannes, donc ils sont à quelques mètres de l'hôtel de ville et donc quasiment en face du projet qu'avait lancé la mandature précédente, que voulait lancer la mandature précédente. Aujourd'hui, c'est une école qui comprend 10 classes, 10, donc 5 dans le dur et 5 dans ce qu'on appelle les bungalows, qui sont répartis en plus de manière topographique, 3 bungalows qui sont répartis sur le parking de la bibliothèque des Alliés de Chavannes qui est à côté de l'école. Il n'y a pas de cantine, donc tant et si bien que les enfants aujourd'hui qui sont en maternelle pour aller déjeuner, donc sont obligés de traverser la rue du 8 mai 45 qui est l'entrée de ville, donc accidentogène, de traverser le parc pour aller donc manger donc dans le centre des pommes, et pareil au retour. Il n'y a pas non plus de périscolaire, pour nous donc c'était une ineptie, et c'est pour ça que donc on a lancé un de ces 10 projets d'avenir qu'on a signé avec le département, qui est un projet structurant et important pour mettre du périscolaire, une cantine sur place, et de faire non pas 10 classes, dont 5 en bungalow, mais de faire 12 classes en dur.
Est-ce que vous prévoyez encore cette croissance démographique qui ne cesse d'augmenter ?
Alors, à un moment, ça, je pense que ça s'arrêtera. Et puis, on aura une répartition de la carte scolaire. Mais effectivement, nous sommes partis sur une augmentation donc des effectifs.
À quel stade vous en êtes, justement, de ce projet-là ?
Alors, c'est encore une fois, on a lancé un appel d'offres. On s'est positionné en mars 2021. Donc, il y a eu le premier appel d'offres en avril 2021. 18 mois, donc... d'appel d'offres qu'on appelle l'OMOP, donc maîtrise d'ouvrage et programmation. Donc on a fait un premier appel d'offres pour retenir un architecte, enfin trois architectes. On a eu 72 candidatures, on a retenu 3 architectes et ensuite on a relancé c'est dans le processus de la commission d'appel d'offres, donc on a retenu un architecte et aujourd'hui, donc, cet architecte est retenu, il commence à travailler. On en est à ce qu'on appelle la phase APS, avant projet sommaire, où on est en concertation avec l'éducation nationale pour regarder comment on allait faire répartir un petit peu les classes sur le projet, donc, qui a été instruit par le cabinet architecte.
Quand est-ce qu'on peut espérer l'inauguration?
Alors, l'inauguration,
voyons
nous
loin.
Avons Non, nous allons essayer de voir court, justement. C'est donc on a demandé dans le cahier des charges que ce soit pour la rentrée 2025.
Donc là, le projet est vraiment bien entamé. En tout cas, il est sur de bonnes voies.
Il est sur de bonnes voies et il est bien environnementé, donc avec le cabinet d'architectes qui a donc un cabinet aussi de pilotage des travaux qui sera vraiment très important. Une fois que le projet est défini, il va falloir se retrousser les manches et surtout ne pas perdre de temps dans l'exécution. C'est une exécution qui sera réalisée ce qu'on appelle en tiroir, c'est-à-dire que l'école ne sera pas fermée. Il faudra faire les travaux pendant que l'école sera toujours ouverte.
Un petit temps d'adaptabilité en attendant le définitif.
Exactement.
À présent, tournons-nous vers le budget de la commune qui a été voté en avril dernier et plus spécifiquement vers le second budget le plus important après la jeunesse et petite enfance, on le comprend avec tous ces travaux sur le scolaire, c'est l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, effectivement. Donc le budget environnement, d'une manière générale, hein, c'est un budget important parce que c'est le quotidien des Mondevillois, des administrés. Alors peut-être un petit rappel aussi sur la réalisation et l'élaboration d'un budget, hein, qui a été fait dans un contexte d'imprévisibilité et de difficultés, tant pour les citoyens que aussi pour les élus et pour une commune. J'en veux pour preuve, par exemple, lorsqu'on a construit le budget 2022, on a eu l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, ce qui est une bonne chose pour eux, sauf que il fallait donc augmenter cet indice au mois de juillet, alors qu'on fait le budget au mois de janvier. Et donc, il faut arriver à l'intégrer, ce qui n'est pas simple pour un budget, mais aussi, donc, l'explosion des prix de l'énergie. Et donc, la construction d'un budget reste toujours un exercice difficile, en tout cas pour nous, puisqu'il faut le rendre à l'équilibre, ce qui n'est pas le cas de toutes les institutions, notamment l'État, qui, lui, peut rendre un budget qui n'est en déséquilibre. Donc, une de nos premières orientations, c'était de ne pas augmenter les impôts locaux, et donc on s'y tient. Néanmoins, donc, le budget de l'environnement et du cadre de vie reste effectivement, comme vous le disiez, donc le deuxième budget de la ville, qui est environ de 8 millions d'euros, consacré donc à l'amélioration du cadre de vie des administrés. Je vous donne quelques exemples. Donc l'implantation de caméras mobiles pour lutter contre les dépôts sauvages.
Ça, c'est quelque chose dont on nous parle très fréquemment, la hausse des dépôts sauvages. C'est quelque chose que vous constatez aussi ici?
Oui. Donc pourtant donc au travers de l'installation de la communauté urbaine, donc la GPSO, nous avons à Mantes-la-Ville donc une déchetterie qui fonctionne très bien. Donc peu insuffisamment de personnes l'utilisent. Je pense que c'est plus lié à de l'incivilité. Nous avons le bois des enfers sur lequel effectivement il y en a beaucoup de dépôts sauvages. Donc on va implanter dans cette zone-là donc les fameuses caméras mobiles qui permettront donc bien sûr de restituer les images et puis de verbaliser donc les contrevenants. On lancera des études sur l'augmentation des caméras de vidéoprotection sur l'ensemble de la ville, parce que donc au niveau des incivilités, donc on a ces dépôts sauvages, mais on a d'autres qui sont plus sur le droit commun et la circulation des véhicules. Mais ça permet donc de diminuer, on va dire, les difficultés au niveau du quotidien, hein, des voitures qui sont garées en double file et qui permettent qui bloquent la circulation. On a mis en place donc une brigade du respect de l'environnement qui vient donc compléter les travaux réalisés par la GPSO donc pour retirer des dépôts sauvages. On a des ramassages des ordures ménagères qui ont lieu le lundi. Bien souvent, donc un certain nombre de containers sont mis en place par les gardiens le vendredi soir. Donc vous retrouvez le week-end donc avec un amoncellement de d'ordures ménagères qui débordent de ces bacs, et donc on vient les ramasser. Et il y a des dépôts sauvages à certains endroits de la ville. Donc cette brigade vient les ramasser et compléter donc le travail de la GPSO.
Vous l'avez renforcée, qui plus est, cette brigade. C'était vraiment important pour vous qu'elle soit plus importante, plus conséquente?
Nous sommes partis sur le constat des administrés. Hein, c'est toujours, on est en contact avec les administrés et puis en relation donc avec la population. Donc on partage notre vision de la ville avec des projets structurants, etc. Mais c'est le quotidien qui martèle. Et lorsque un administré sort et qu'il trouve donc des amoncellements ou bien de l'herbe qui n'est pas tondue, effectivement, donc une fois, deux fois, trois fois, à la fin, voilà, il faut arriver à réagir. C'est une compétence qui a été transférée en 2016 à la GPSO, mais aujourd'hui, le résultat était insatisfaisant, donc il a fallu qu'on mette en place donc cette brigade pour lever les derniers doutes. Alors je me permets de dire aussi, de profiter de cette occasion, qu'avec un certain nombre de maires, donc au niveau de la GPSO, nous allons obtenir de récupérer une partie des compétences. Et en ce qui concerne Mantes-la-Ville, nous allons récupérer une compétence donc de propreté et d'espace vert, justement, parce que le quotidien chez nous est important.
Vous avez aussi choisi de réduire l'éclairage public, vous en avez parlé, hein, le fait de ne pas avoir augmenté les impôts, mais malgré tout le reste des charges ayant augmenté, il fallait trouver un petit balancier, on va dire.
Oui, alors donc on s'est inscrit auprès de la GPSO sur ce dispositif de changer donc les ampoules et de passer en LED, qui consomme beaucoup moins d'énergie. Nous allons lancer aussi des diagnostics sur les déperditions énergétiques sur les espaces communaux, et nous allons bien sûr ensuite lancer des travaux. En gros, pour faire simple, ça sera de l'isolation thermique de nos bâtiments, ce qui feront qu'ils seront beaucoup moins qui consommeront beaucoup moins d'énergie.
Notre émission s'approche de la fin. Un petit mot pour terminer avec l'agenda. Prochainement, il y aura un arbre, une naissance. C'est quelque chose que vous aviez souhaité?
Alors oui, la prochaine opération d'un arbre, une naissance sera aux alentours du 10 juin, mais c'est une opération qu'on a lancée depuis le début du mandat, où Elle consiste en quoi? C'est en fait, donc, on s'est dit qu'à chaque naissance d'enfant, on allait planter un arbre. Alors, on va pas planter un arbre par enfant, mais par contre, tous les mois, donc, on répertorie l'ensemble des enfants qui sont nés le mois. Et ensuite, donc, on plante des arbres à des périodes bien, bien précises afin que les espaces verts et surtout les arbres puissent fonctionner. Et on s'aperçoit que les enfants donc auront une plaque avec leur prénom dessus et grandiront en même temps que les arbres. Et si on fait le compte, donc il y aura à la fin du mandat environ 70 arbres qui auront été plantés avec sur chaque plaque à peu près 20 à 30 enfants qui pourront donc voir l'arbre grandir en même temps qu'eux.
Et ce sera le mot de la fin. Monsieur le maire, merci de nous avoir reçus. Notre émission.
Merci à vous.
Est à présent terminée. J'en profite pour remercier notre réalisateur, Robin. Vous pourrez bien sûr retrouver cette émission et les précédentes en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com. Quant à moi, je vous retrouve à 8h30 pour votre journal d'information locale et vendredi prochain dès 8h en compagnie d'un élu du Mantois. Mais pour l'heure, c'est le retour de la matinale de Pauline et Fredo sur BPM.
Les rendez-vous du Mantois, tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois.